OK, on est à notre 64e leçon sur la théologie systématique. Nous allons voir aujourd'hui la manifestation et l'administration de l'Alliance de grâce. Dans des chapitres précédents, on avait commencé à étudier un petit peu l'Alliance de grâce, donc le fait que cette Alliance de grâce avait été conçue dans l'éternité et que cette Alliance de grâce-là était entre les trois personnes de la Trinité, et dans laquelle chacune des personnes convenait d'accomplir sa part. Alors, on va maintenant étudier l'administration de l'Alliance de grâce durant les différentes périodes de temps. Donc, celle avant la venue de Christ, qu'on pourrait appeler l'Ancienne Alliance, qui va de la chute d'Adam à la venue de Christ, et celle après la venue de Christ, donc ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Dans Hébreux 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voyez-vous, dans le verset ici, on fait la Bible fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ. Galates 4, versets 22 à 26. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantin pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mm. » Voyez-vous, il prend l'exemple de l'Ancien Testament où Abraham avait eu deux femmes, Agar, et aussi, je ne me souviens plus de son nom.
Sarah.
Et là, il dit que ce passage-là doit être interprété de façon allégorique. Donc, il prend deux femmes et il est fait représentatif des deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et il dit, dans le fond, Agar, c'est l'ancienne Jérusalem, le peuple actuel des Juifs qui sont sous la servitude. Et la nouvelle, ceux qui sont avec Jésus-Christ, donc qui sont libres, la Jérusalem moderne. Alors, c'est ça. On va regarder les deux administrations. Il y a certaines choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui sont, on pourrait dire, des concordances, donc des similitudes, des choses qui se ressemblent. Et on va voir dans un deuxième point qu'entre la première alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a aussi des choses qui sont non similaires, qui sont différentes. Donc, on va regarder aujourd'hui, dans le premier point, les deux administrations, les concordances ou les similitudes. Donc, la première chose qui est concordante entre la première, entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la cause qu'on pourrait dire efficiente. Qu'est-ce qui fait que l'ancienne alliance pouvait être efficace? Qu'est-ce qui fait que la nouvelle alliance pouvait être efficace? C'est Dieu lui-même, bien entendu. La deuxième point qu'on va regarder, c'est la cause initiante. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une première alliance? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une deuxième alliance? Qu'est-ce qui a initié le processus? C'est la miséricorde de Dieu. En anglais, ils disent « the moving cause ». Donc, c'est la miséricorde de Dieu qui a fait en sorte qu'il y a eu les deux alliances. Luc 1, verset 72, « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. » Le troisième point qu'on va regarder, le point de similitude, c'est que dans l'ancienne, comme dans la nouvelle, il y a un médiateur. 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu » et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous, on parle que quand Jésus est venu, c'était la nouvelle alliance. Maintenant, il y a autre chose qui est similaire entre l'ancienne et la nouvelle, c'est les sujets. Donc, les élus de Dieu. Autant dans l'ancienne que dans la nouvelle, il y avait les élus de Dieu. Éphésiens 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Autre chose qui est similaire entre l'ancienne et la nouvelle, c'est les bénédictions. 2 Samuel 23, verset 5. « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? » Voyez-vous, c'est David qui parle. Non pas David, mais dans l'Ancien Testament. Et il parle qu'il a fait une alliance éternelle en tout point bien réglée, donc il parlait de l'ancienne. Donc il y avait des bénédictions rattachées à l'ancienne alliance aussi. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on arrive sur ces passages-là, qu'il y avait de la nourriture spirituelle, un breuvage spirituel, un rocher spirituel, la Bible nous donne l'interprétation dans le Nouveau Testament. Il s'est dit « et ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Donc, les bénédictions étaient le pardon des péchés, que ce soit dans l'Ancienne ou dans la Nouvelle, c'était le pardon des péchés, la justification, la régénération, la sanctification et la vie éternelle. Les deux administrations, maintenant, les discordances. Il y a des choses qui sont différentes entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors, c'est des, en anglais, des disagreements entre les deux administrations. C'est la direction des regards. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient pour recevoir le salut regardaient en avant. Ils regardaient Christ à venir. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, nous, on regarde Christ déjà venu. Donc, il y en a un qui regardait Christ à venir, mais c'était quand même le salut en Christ, mais lui, il le regardait comme le Messie à venir, tandis que nous, on regarde le Messie déjà venu. C'est ça la différence entre les deux alliances. Donc, les saints de l'Ancien Testament regardaient vers le Christ à venir, c'est-à-dire vers l'avant. La direction des regards était vers l'avant. Ils étaient dans un état d'attente, d'expectation et de gémissement. Gémissement, en anglais, longing, ça veut dire il y avait hâte que ça arrive. Quand ça va arriver, Seigneur? Quand ça va arriver notre délivrance? Alors, ils étaient dans un état d'attente, d'expectation et de gémissement. Les saints du Nouveau Testament, eux, regardent vers le Christ déjà venu. Dans notre cas, nous, c'est que les saints de l'Ancien Testament, il y a eu 4000 ans. Dans les 4000 ans avant que Jésus-Christ vienne, eux, ils regardaient en avant. Nous, on est, Jésus est venu, nous, on est dans la partie, on regarde vers l'arrière. Eux regardent vers l'avant, nous, on regarde vers l'arrière. Les saints du Nouveau Testament regardent vers le Christ déjà venu. Ils regardent vers l'arrière, vers ce qui est déjà accompli. Donc, la première différence entre l'ancienne et la nouvelle, c'est vraiment la direction des regards. Un regarde à l'avant, l'autre regarde à l'arrière. La deuxième, c'est la clarté. C'est beaucoup plus clair pour nous, toute la question du Messie, la question de tous les détails de ces choses-là, de la compréhension de Jésus-Christ, beaucoup plus complète dans le Nouveau que dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, les choses concernant Christ étaient une ombre, étaient voilées et souvent présentées de façon typologique. Je trouve ça le fun qu'on fasse la leçon ce matin alors qu'on est en train d'étudier le tabernacle, parce que dans le tabernacle, tout était typologie, tout était symbolisme, alors que nous, aujourd'hui, on parle d'une ombre. C'est comme une réalité puis une ombre, c'est la même chose. Alors, c'était beaucoup de choses dans l'Ancien Testament pointent vers Christ, mais de façon symbolique. Alors qu'aujourd'hui, nous, Christ est venu et on a plus de détails le concernant. Dans le Nouveau Testament, les choses concernant Christ sont une réalité, sont dévoilées et sont accomplies. Voyez-vous, eux, ils regardaient en avant et les choses étaient une ombre, tandis que nous, c'est une réalité. Eux, les choses étaient souvent voilées, symboliques, et nous, elles sont accomplies. Alors, c'est la différence entre les deux. Et la Bible elle-même dit ça. Hébreux 10, par exemple, verset 1. « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Voyez-vous, il est en train de parler de l'ancien système sacrificiel de l'Ancien Testament, de l'époque du tabernacle. Et il dit que ces choses-là sont une ombre des biens qui étaient à venir pour eux. Mais pour nous, c'est déjà accompli. Et ça dit que les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, ça n'amenait pas les assistants à la perfection dans l'Ancien Testament. Maintenant, oui. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 et 13 et verset 18. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, les choses étaient à venir, c'était une ombre, maintenant c'est une réalité. Ils sont dévoilés et accomplis. Troisième point qui est similaire, donc le premier point, c'est la direction des regards, le deuxième point, la clarté, plus clair les choses concernant Christ dans le Nouveau que dans l'Ancien. Et le troisième point, la liberté. Dans l'Ancien Testament, on parle que les gens étaient dans l'esclavage. Quand on parle de la loi, par exemple, on dit qu'ils étaient sous un joug et ils étaient esclaves. Ils étaient dans l'esclavage et la servitude. Dans le Nouveau Testament, c'est la parfaite liberté. Galates 4, versets 1 à 3. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Voyez-vous, il parle de l'Ancien Testament et il considère ça comme il était sous l'esclavage. Galates 4, versets 24 à 26, et ici, il revient encore avec l'exemple de l'allégorie de Sarah et d'Agar. Il dit « Ces choses sont allégoriques, ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. » Et vous, les Israël étaient sous la servitude à cause de la loi et qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir. C'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Là, Paul, il parle de la... Parce que c'est très proche, là. Paul, il parle, au moment qu'il écrit ça, ça faisait pas longtemps que Christ était venu. Il fait la différence entre l'ancienne et les gens de Jérusalem qui, à son époque, étaient encore dans la servitude. C'est d'eux qui parlent. Mais lui, à cause du fait que Christ est venu, il n'est plus dans la servitude. Et il dit, mais la Jérusalem d'en haut... Donc, il fait la différence entre la Jérusalem terrestre, celle de l'époque où Paul pouvait se promener dans Jérusalem. Eux étaient encore dans la servitude. Mais il dit, nous, On est de la Jérusalem d'en haut. Nous, on est libre. Mais la Jérusalem d'en haut, verset 26, est libre. C'est notre mère. Donc, la différence, bien important de saisir ça. Et la quatrième discordance, c'est-à-dire, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a une différence à deux niveaux. Il y a une différence quant à la quantité de l'Esprit et une différence aussi quant à la qualité. Quant à la quantité, la quantité de grâce et de dons dans l'Ancien Testament du Saint-Esprit était quand même grand. Mais si on la compare au Nouveau Testament, le Nouveau Testament, les grâces et les dons de l'Esprit de Dieu envers son Église sont énormément, énormément plus grands. Alors, quant à la quantité de grâce, c'est dans l'abondance et la démesure dans le Nouveau Testament pour la lumière et la connaissance. Donc, le Saint-Esprit va agir de façon beaucoup plus ouverte, il va faire comprendre les choses aux gens plus à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Quant à la qualité aussi, la qualité, parce que Dieu donnait, par exemple, son esprit des fois à certaines personnes, prenons l'exemple de Oholiab et de qui avait reçu de l'intelligence par l'esprit pour bâtir les choses du tabernacle. Mais c'était quand même rien comparativement à la plénitude du Saint-Esprit quand le Seigneur a permis que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Alors, c'est au point de vue tant la quantité que la qualité de l'Esprit-Saint dans les deux alliances est différente. Alors, c'est comme une discordance entre les deux. Et cinquième différence, c'est au niveau de l'extension des deux. Qu'est-ce qu'on veut dire par extension? C'est que dans le Nouveau Testament, l'Alliance va inclure plus de personnes que dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était les Juifs et quelques gentils. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout les gentils et quelques Juifs. Voyez-vous, l'emphase est complètement différente. Dans l'Ancien Testament, les Juifs et quelques gentils. Quand le Christ est venu, ça a été à cause du fait qu'ils ne l'ont pas reçu. Ça dit dans Romains, le Seigneur a accordé sa grâce aux gentils, à nous. Amen. Et maintenant, il y a encore l'Église. Alors, l'extension, anciennement, c'était plus les Juifs avec quelques gentils. Maintenant, c'est plus, ça s'est étendu à tous les gentils. Et il y a quand même aussi encore quelques Juifs. Éphésiens 2, versets 11 et 12, c'est pourquoi « Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Il est en train de rappeler aux païens qui ont maintenant reçu la grâce, que anciennement là, vous ne receviez pas toutes les bénédictions qui étaient rattachées aux Juifs. Il dit privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc les païens à ce moment-là avaient pas, il y avait quelques païens qui avaient reçu la grâce dans l'Ancien Testament, mais c'était des exceptions. Maintenant, à cette heure, c'est comme inversé, c'est les païens qui reçoivent la grâce en grande majorité, et les Juifs en reçoivent encore, mais moins que dans l'Ancien Testament. Éphésiens 3, verset 6, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voyez-vous, la conviction des Juifs à l'époque de l'Ancien Testament, c'était que l'Évangile n'était pas pour les païens, c'était pour eux. Et ils acceptaient quelques prosélytes, là, mais c'était du bout des doigts. Mais à partir du moment, il explique ça comme étant un mystère. Il dit, ce mystère, c'est que les païens, maintenant, sont co-héritiers avec le peuple juif de l'Ancien Testament. Ils forment un même corps et ils participent à la même promesse, qui avait été donnée en Abraham, et à d'autres, en Jésus-Christ, par l'Évangile. Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez-vous, il est en train de parler de la promesse, de la bénédiction d'Abraham, et ça dit « eût pour les païens son accomplissement ». Donc, quand on relit attentivement l'Ancien Testament, les Juifs étaient convaincus que ça parlait juste d'eux. Mais ici, il est en train de dire que c'était un mystère, qu'il n'avait pas nécessairement compris que, éventuellement, c'était pour s'adresser aux païens. Et que cette promesse-là, qui avait été la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Autre point, qui est, c'est la durabilité. La nouvelle alliance aura une continuité qui s'étendra jusqu'à la fin du monde. Elle ne sera jamais changée et elle excelle sur l'ancienne en gloire. Alors, le Nouveau Testament nous dit que c'est ça la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle ne prendra jamais fin, tandis que l'alliance, l'ancienne, a pris fin à un moment donné. Le Nouveau Testament nous enseigne que la nouvelle alliance est plus excellente en gloire que l'ancienne. On va aller voir les versets, 2 Corinthiens 3, versets 9 à 11. « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Vous voyez, il fait la différence entre les deux. On voit une différence, là. La différence est très claire. Il dit, il y en a une qui va être permanente, l'autre était temporaire. Il y en a une qui est beaucoup plus glorieuse que l'ancienne, et c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 10 aussi. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, était, voyez-vous, très important les mots, était des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ce que les Juifs faisaient à l'époque du tabernacle, c'était que des ordonnances charnelles jusqu'à ce que Christ vienne. C'était des symboles. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Voyez-vous, encore là, il faut faire la distinction entre l'ancienne et la nouvelle, mais dans l'ancienne, les éléments qui concernaient la nouvelle étaient déjà présents, symboliquement. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voyez-vous, l'Ancien Testament, c'était des affaires en or, c'était des planches en bois. Et quand il dit que Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, c'est son propre corps qui était le tabernacle. Luc 16, 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. » Et chacun use de violence pour y entrer. Autre chose, ce sont les ordonnances qui sont différentes. Dans l'Ancien Testament, les ordonnances étaient charnelles, mondaines, typologiques, des ombres. Ils étaient pour un temps, ils étaient ébranlables et muables. La preuve, c'est que ça n'a pas duré éternellement. Après la venue de Christ, ces choses-là ont été abolies. Et c'était donc pour un temps, c'était ébranlable, donc ça pouvait changer, et c'était muable par définition même, quelque chose qui est muable, c'est quelque chose qui peut changer. Tandis que dans le Nouveau, la Nouvelle Alliance, ces choses-là ne peuvent plus changer. Dans le Nouveau Testament, voyez-vous, la différence, c'est que dans l'Ancien, c'était charnel, mondain, typologique, des ombres. Maintenant, dans le Nouveau, ils sont divines, spirituelles, réelles, permanentes, inébranlable, immuable et éternel. Alors, il faut faire la distinction entre les deux, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Hébreux 9, versets 1 et versets 9 et 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. C'est ce qu'on est en train de voir quand on étudie le tabernacle. Il dit, c'est une figure. Donc, une figure, c'est un symbole pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 12, versets 27 et 28, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alors, on parle de la Nouvelle Alliance. Elle est inébranlable. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Autre chose qui les distingue, c'est les promesses et les bénédictions. Dans l'Ancien Testament, les promesses et les bénédictions étaient plus terrestres et plus obscures. Dans le Nouveau Testament, les Écritures utilisent des termes comme elles sont de meilleures promesses, un meilleur testament, et elles sont parfaites. Alors, c'est une brève leçon qui fait la distinction. Il y a des choses qui sont similaires, qui sont comparables, qui sont des concordances entre l'Ancienne et la Nouvelle, mais il y a aussi des choses qui distinguent l'Ancienne Alliance de la Nouvelle. C'est ce qu'on vient de voir, les différents points. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Très certainement, de rendre grâce à Dieu pour la surabondance de la deuxième administration de l'Alliance de grâce. Nous, on est dans la Nouvelle, et c'est supérieur et plus parfait et plus inébranlable et c'est durable. Donc, c'est une révélation qui est complète en termes de richesse, en termes de clarté, en termes d'étendue. Tout à l'heure, on a parlé que les Juifs, ils pensaient que c'était juste à eux. L'étendue maintenant de la Nouvelle, c'est plus large. Et les Écritures nous disent que la deuxième alliance est non seulement inébranlable et permanente, mais qu'elle est plus grande en gloire. Alors, que notre grand Dieu soit sage et souverain Seigneur, soit béni, exalté et loué éternellement. Amen. Amen.